Et bonsoir l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau chapitre de 4212, chapitre 3. J'ai pas encore le titre, on va le deviner pendant l'épisode. En quelques mots, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, on s'est régalé dans un épisode qui s'appelle Le foin est dans la grange. Je mettais en évidence à quel point c'est une citation qui m'a marqué et à quel point j'essaie de me l'appliquer au quotidien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui sont là pour la première fois, je m'appelle Antoine. J'ai créé une boîte dans l'automobile pendant 6 ans, j'en suis récemment parti et je monte une nouvelle entreprise en appliquant les leçons que j'ai retenues de ma précédente boîte et en vous les partageant de semaine en semaine. L'objectif c'est pour moi d'historiciser tout ça, d'avoir une sorte de journal intime chaque semaine, de pouvoir le réécouter dans quelques années et d'avoir l'impression d'être vraiment débile à l'époque et de partager avec vous un max de trucs. Donc merci d'être là, ça fait plusieurs semaines que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour vos écoutes, et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn pour me dire ce que vous en pensez. Sur LinkedIn ou sur Instagram, d'ailleurs je fais des bêtes de story. ça commence bien cet épisode. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Cette semaine, on va débriefer du coup de la semaine dernière, comme d'habitude, et je vais vous donner un peu les leçons que j'ai tirées des quelques sujets de la semaine. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points dont je veux vous parler, qui m'ont un peu marqué dans le contenu que j'ai pu consommer cette semaine ou dans les choses que j'ai pu voir. Donc ce sera sujet à philosophie, évidemment le tout ponctué de moi qui me délecte de ma petite gourde d'eau et qui m'hydrate entre chacun des points. Sans plus attendre et sans jingle, je vous propose de passer à mon débrief de la semaine. Alors la semaine dernière, c'était plutôt une bonne semaine. Pas la meilleure des trois dernières, mais c'était une bonne semaine. Franchement, j'ai pas mal envoyé, j'ai pas mal bossé, j'ai réussi à bien planifier mes priorités, mais j'ai pris un peu de retard sur des tâches qui étaient importantes mais pas urgentes. Et ça, c'est un peu le piège quand on fait des choses, quand on entreprend et tout, c'est que les choses qui sont importantes mais pas urgentes, c'est ce qui fait grossir une boîte. Donc c'est travailler sur l'offre, travailler sur le produit, contacter des partenaires pour le long terme, préparer une présentation revendeur, des choses comme ça, sans spécifiquement qu'il y ait d'échéance à court terme, sans avoir un meeting commercial ou un board ou quelque chose pendant lequel il faut présenter le sujet. Mais les choses importantes, c'est ce qui fait croître l'entreprise. Et du coup, c'est parfois un peu problématique de les caler dans l'agenda et de se motiver à les faire, parce qu'on n'a pas ce sentiment d'urgence, on n'a pas ce truc de « si je le fais pas à tel moment, je suis vraiment dans la merde ». En fait, on a vraiment un truc où c'est, on sait qu'il faut le faire, mais c'est pas maxi urgent de le faire. Et du coup, un des trucs à faire, c'est de se le programmer dans l'agenda, mais parfois, au moment de se le programmer dans l'agenda, on se trouve des excuses pour faire d'autres choses que ce qui est important. On va aller se trouver un mail auquel répondre, des trucs, etc. Et parfois, ça m'arrive aussi de tomber dans le piège. Je dis pas que ça a été le cas pendant toute ma semaine, je vous rassure, j'ai fini par bien travailler, mais j'avais une roadmap produit que je voulais faire, quelque chose que je voulais travailler un petit peu, avec les premiers feedbacks de clients que j'avais eu pour estimer un peu quelle feature est-ce qu'il fallait qu'on développe dans le futur, sur quel type d'offre est-ce qu'on pouvait se positionner. J'ai un peu procrastiné là-dessus, j'ai fini par le faire. Et il y a une présentation revendeur sur laquelle en fait je me sens pas suffisamment mature pour la faire. Je pense que c'était un peu trop tôt pour moi de me mettre dans cette perspective. En gros, je peux pas encore vous divulguer ce qu'on fait, je suis vraiment désolé, ça va venir, mais en gros on fait un produit qui peut être revendu par des tiers, un peu comme dans l'automobile il y a des produits qui sont vendus par des concessionnaires. Là notre produit peut être revendu par des magasins ou par des partenaires, et j'aimerais bien que ce soit le cas parce que c'est un canal de croissance qui est absolument insane et qui permet d'atteindre des objectifs super vite et vraiment commercialement d'être super efficace, parce qu'en fait tous les mois, au lieu de tous les mois devoir signer des clients, tous les mois tu signes des gens qui signent des clients, et du coup tu as une courbe qui est exponentielle dans ta capacité commerciale et dans ce que tu fais, et en plus, en général, c'est un moindre coût, voire tu peux gagner de l'argent parce que tu peux faire payer aux gens une formation ou une accréditation pour qu'ils soient en capacité de vendre ton produit. Ça demande un peu de branding et tout, mais c'est possible si tu positionnes bien l'offre. Donc du coup, pour moi, c'est un canal de vente qui est ultra intéressant, un canal business qui est ultra intéressant. On reviendra dessus, je pense, une fois que je l'aurai mis en place et que je serai vraiment chaud sur le sujet, je vous ferai la masterclass de comment faire un programme de revente de son produit. Je pense que c'est vraiment un levier de croissance de fou furieux pour beaucoup de boîtes, mais voilà, en gros, c'est un sujet qu'il faut que je bosse. J'ai commencé à travailler dessus, mais je me sentais pas mature de ouf. Et ça tombe bien parce que dans 100 Million Leads, que je suis en train de finir de lire d'Alex Hormozzi, la toute dernière partie est sur ce sujet-là. J'en ai lu une grosse partie hier, et en vrai c'était maxi intéressant, il y avait plein de trucs auxquels j'avais pas pensé, donc plutôt cool d'avoir procrastiné sur ce sujet et de pas avoir fait trop de casse. Donc c'est plutôt cool, même si c'est un sujet qui va être pending et que j'aimerais vraiment activer, je pense, dans les 3-4 prochains mois, parce qu'on peut vraiment faire du sale. Donc la présentation revendeur, c'est vraiment, vraiment un sujet, tout l'axe, tout le business des revendeurs, c'est vraiment un truc que j'ai envie de bien targeter dans les prochaines semaines. Et bien sûr, je vous livrerai mes meilleurs apprentissages. Dans une semaine, deuxième point sur la semaine passée, donc dans une semaine on va commencer à reconnaître du MRR, donc on a signé des contrats à partir du 1er avril, donc ça c'est plutôt cool, c'est un bon milestone, je suis assez content de pouvoir commencer à reporter sur le fait qu'il y ait du MRR, mais maintenant il va falloir exploser ce milestone, et ce qui est cool c'est que je découvre plein de choses sur les business de MRR, et en fait je connaissais les fondamentaux, donc MRR pour Monthly Recurring Revenue, donc c'est une facturation mensuelle, du revenu mensuel récurrent. En gros, c'est du business par abonnement, tu vois, tu payes 29,90€ par mois, tel truc. Donc c'est un business que je connaissais, je savais que c'était un business model puissant parce qu'il te permet d'avoir un modèle de revenu récurrent et prédictif. Donc c'est assez stylé parce que tu sais combien tu vas gagner le mois prochain, chaque client que tu signes s'empile sur cette brique de revenus-là, donc ça veut dire que tu as un revenu qui est forcément croissant, que les gens qui sont déjà avec toi continuent de t'alimenter, donc ça te permet d'avoir un modèle de gestion d'entreprise qui est assez sain. Un modèle business qui est vraiment cool. Donc je connaissais forcément le MRR, enfin je veux dire, si t'entreprends, c'est que a priori tu sais ce que c'est le MRR, mais j'avais jamais vraiment travaillé le sujet, j'avais jamais vraiment dig sur comment ça fonctionne, à part l'abonnement je veux dire, et je peux vous dire que j'ai commencé à vraiment dig, à regarder des vidéos YouTube un peu du deep YouTube dessus, quoi, tu vois, des gens qui sont juste en zoom et qui se filment, et le truc a genre 1000 vues, mais trop intéressant. Je vous mettrai les liens en description de ce podcast, si j'y pense, sinon ce sera à vous de chercher. Et juste c'est trop cool en fait. Il y a tellement de choses qu'on peut travailler autour du MRR. Le MRR, c'est vraiment devenu mon focus numéro 1, c'est-à-dire que tous les jours je me dis, ok, comment est-ce qu'on fait pour faire plus de MRR? C'est vraiment ma métrique de vie professionnelle en ce moment, c'est le MRR. Donc, je digue de fou, j'essaie de vraiment me former sur ces sujets-là. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'il y a un ensemble de métriques qu'on peut traquer autour du MRR qui sont toutes ultra intéressantes. Alors, je connaissais la Lifetime Value, je vous en ai parlé la semaine dernière, la Lifetime Gross Profit, que j'avais jamais matérialisé, mais qui est en fait assez smart. Qui est en gros combien de profit te génère un client sur toute sa durée de vie, donc du coup tu peux faire des ratios entre ton coût d'acquisition et le lifetime gross profit de ton client. L'ARPA aussi que j'ai découvert la semaine passée, qui est le average revenue per account, qui est un truc tout bête mais en fait que tu peux traquer, donc tu peux essayer de maximiser ça, enfin bref. Donc pour l'instant c'est plein de métriques qui sont présentes, qui sont pas maxi relevant pour le stade de business auquel on est. Enfin là on est plus au stade où il vaut mieux qu'on ait des clients en phase d'essai qui payent pas mais qui essayent notre produit, qui fassent tourner le truc, plus que du MRR qui rentre et du CAC et machin, parce qu'on dépense 0€ en acquisition de toute façon pour l'instant, on n'a pas du tout la maturité pour. Donc c'est que le début et ça sert à rien de s'enflammer sur ces métriques, c'est de commencer à reporter dessus et tout ça, mais je trouve ça ultra intéressant et surtout je me rends compte de la puissance de ce business model, à quel point c'est orienté sur la data, à quel point c'est stylé, donc je suis content d'être dans un business model qui contient du MRR parce que je perçois que dans 12 à 18 mois je vais être une brutasse du MRR et ça me paraît être un skill qui est plutôt positif pour la suite de ma carrière et pour la suite de mes business. Et j'avais jamais fait de trucs MRR, tout ce que j'avais fait c'était très consumer, enfin soit très consumer one time. Donc en gros, tu vois, les affiches sur le vin dont je vous parlais aussi la semaine dernière, t'achètes une affiche, il n'y a pas de MRR, tu mets 30 balles, tu reçois ton affiche, on n'en parle plus. Et les voitures qu'on vendait, on voulait une forme de MRR, mais en fait ça se passe pas trop comme ça dans l'automobile. Dans l'automobile, tu peux faire du MRR si tu mets en location longue durée ou location avec option d'achat, mais en fait c'est pas toi qui fais du MRR, c'est la banque qui fait du MRR, parce que pour ces montants-là, t'es quand même plutôt obligé d'avoir un partenaire bancaire sur lequel t'adosser. Parce que t'as des montants qui sont assez énormes, donc tu peux pas gérer ce risque toi-même d'un point de vue automobile en tout cas. Donc c'était galère de faire du MRR pour cette boîte. Tu peux le faire, mais via un partenaire bancaire. Et en fait, le partenaire bancaire, il te paye one time tout. Donc en fait, c'est comme si tu avais vendu le bien. Juste, c'est le partenaire bancaire qui te paye. Et le client final paye un revenu, enfin un loyer plutôt, au partenaire bancaire. Donc en gros, bah toi, tu fais pas de MRR, tu vends juste un truc. Donc ça, c'est plutôt stylé sur la semaine passée. Enfin vraiment, je découvre des trucs et je suis content d'apprendre sur ce sujet-là parce que je manquais de connaissances sur ce sujet. Et je pense que beaucoup d'entrepreneurs, je vais un peu juger, mais je pense que beaucoup fantasment le sujet du MRR. En mode, ouais, c'est un truc trop stylé, machin, mais ne digue jamais vraiment dans ce que c'est le MRR et à quel point, en fait, il y a plein de trucs à faire autour. Donc, trop cool de passer du temps là-dedans. Ensuite, on a reçu un appel d'offres auquel on s'attendait et donc il est sorti, on l'a bien reçu, tout est déjà quasiment prêt de notre côté, à part quelques détails, donc c'est plutôt cool. On n'a pas de surprise là-dessus. Et globalement tous les meetings commerciaux que j'ai fait la semaine dernière sont très bien passés, j'ai eu des bons retours de clients potentiels, on avance pas mal. Je pense que, en fait c'est marrant parce que je pense au moment où je vais annoncer le projet sur lequel je bosse, je pense que instant je vais pouvoir annoncer des signatures de clients et des trucs vraiment cool. Donc bah c'est stylé, ça fera un effet d'annonce bénef alors qu'en fait ça fait un mois que je bosse dessus, donc forcément on a des livrables. Mais voilà, c'est plutôt cool et ça avance. Donc, plutôt des bonnes nouvelles de ce côté-là. J'ai fait quelques erreurs sur un deal dans lequel je travaille dans le milieu du vin. Donc, je travaille sur un deal pour acheter un distributeur d'accessoires de vin. Grosso modo, je peux pas encore vous donner le détail. Je pense que la semaine prochaine, non, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est sûr, je pourrais vous dire. Et je vous ferai un épisode spécial même sur ce sujet-là, donc je vais arrêter de vous en parler après ça. Je vous ferai un épisode spécial parce que c'est une histoire qui est vraiment cool, mais en gros je suis en train de racheter une boîte dans ce domaine-là et j'ai été un peu ambitieux, on va dire, sur mes liquidités et sur ce que j'allais être en capacité de faire à moins d'un mois après avoir quitté la boîte que j'ai créée. Donc je fais face à des challenges de négociation. Mais ça se passe bien, j'ai une super relation avec le vendeur, donc voilà, je suis assez content, je donne pas tous les détails tout de suite parce que je pense qu'il y a un max de trucs qui sont confidentiels. Et puis même j'ai pas envie, même si c'est pas confidentiel, pour le coup j'ai pas trop envie de vous donner les détails tant que c'est pas encore finalisé. Mais c'est un sujet de préoccupation pour moi en tout cas. Et je pense que je vous ferai même une vidéo YouTube sur le sujet parce que l'histoire est vraiment stylée. Les boîtes sont trop cool. J'ai hâte de pouvoir vous partager un petit code promo pour vous mettre bien et mettre bien les personnes autour de vous. Et voilà. Et en tout cas, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, de racheter une boîte. Ça s'est très bien passé jusqu'à présent. Donc c'est un parcours qui est plutôt cool. Je pense pas que ce soit représentatif de toutes les acquisitions qui sont possibles et tout ça, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Donc plutôt cool. Enfin, dernier update de cette semaine, avant que je prenne ma petite gorgée d'eau, parce que je commence à avoir la gorge sèche, c'est le niveau sport. Niveau sport, c'était un peu 50-50 sur la semaine écoulée. J'ai bien fait mes 3 séances de muscu, ça s'est très bien passé, et ça, je suis content parce que je vois vraiment la progression. Alors, je vois une progression visuelle, mais en fait, le danger de la muscu que je pense tout le monde a connu, c'est que d'abord, tu vois pas beaucoup, puis d'un coup, beaucoup. Puis après, tu vois plus trop à quel point tu progresses. Et du coup, c'est frustrant et du coup, t'arrêtes parce que c'est pas du tout linéaire. Et cette fois-ci, j'ai l'application Strong. Désolé, il y a ma copine qui vient d'éternuer. Je pense que vous l'aurez pas entendu parce que elle est un peu loin et que j'ai un bon micro, mais moi, j'ai entendu, ça m'a un peu déconcentré. Bref. Donc j'ai téléchargé l'application Strong, que je vous recommande de ouf, qui vous permet de programmer vos séances, donc juste d'avoir votre programme d'entraînement qui est prêt, quoi, et de traquer surtout les poids que vous soulevez de semaine en semaine, et donc du coup, la séance suivante, plutôt, vous pouvez voir ce que vous avez fait la séance précédente, et donc du coup, ça vous dit où est-ce que vous en êtes, vous êtes sûr de pas faire moins, vous pouvez toujours faire plus, progresser, machin, et donc ça gamifie pas mal le truc. Et bah ça permet de bien traquer tout ça et de stravaïser un peu la muscu. Et bah c'est stylé parce que en fait quand on va à la salle un peu les mains dans les poches, sans programme, sans suivi, machin, bah il se passe rien, alors que là je peux vous dire que c'est au carré. Et bah du coup ouais, ça me permet vraiment de voir mes progrès. Là, j'ai battu des records de poids. Alors, on parle pas encore de poids de ouf, mais je commence à avoir des poids assez stylés. Je suis assez content. Et je pense que je vais pouvoir dans quelques mois largement dépasser mon poids de corps sur certains exercices. Donc bah c'est assez stylé. Enfin, en tout cas, moi, c'est un de mes objectifs. Donc voilà, vous jugerez si c'est cool ou pas, mais je pense que sur la plage, en tout cas, ce sera stylé. Côté course à pied, par contre, un petit peu plus difficile. J'ai eu du mal à me remettre du run long de dimanche dernier, et donc du coup, cette semaine, j'ai eu un peu mal en courant, c'était pas méga agréable. C'est pas la périostite, donc ça, c'est une bonne nouvelle, surtout à 2 semaines du marathon. Mais ça m'empêche, enfin ça m'a empêché de faire ma sortie longue dimanche. Enfin, ça m'a pas empêché, je pense que j'aurais pu la faire, mais je pense que j'aurais eu des risques de me blesser. Et à 2 semaines du marathon, mon focus il est plutôt sur ne pas me blesser versus faire une sortie longue de plus. Je suis assez confiant sur mon endurance, donc j'ai préféré me préserver. À la place, j'ai fait 60 km sur un trainer dimanche. Donc ça m'a pris à peu près 2 heures, ce qui correspond à une sortie un peu longue. Bon, là, sachant que c'est du vélo, c'est pas les mêmes muscles, mais au moins c'est un peu le même type d'effort que j'ai voulu simuler. Donc ça, c'est cool. Cette semaine, je vais essayer de passer chez le kiné, mais je pense pas que j'aurai le temps. La semaine prochaine, je vais essayer d'y aller. Et là, je fais vraiment mes exos de kiné de manière ultra carrée, quoi. J'y échappe pas, là. J'y vais juste après ce podcast. Parce que c'est important et que il faut que je sois en forme. Donc, côté objectif, 3h45, je pense qu'on va les claquer sans problème. 3h40, c'est un peu plus le challenge et on verra. Je suis un peu mitigé sur ça, mais en vrai, je pars plutôt confiant là. 2 semaines, je me sens plutôt bien, donc voilà, ça va le faire. Si vous êtes sur le parcours du marathon de Paris, bah, n'oubliez pas d'encourager tous les coureurs, faites-moi signe. J'aurai un dossard, mais comme tout le monde. Mais je sais pas encore quel sera le numéro du dossard parce que je l'ai pas encore récupéré, mais je vous mettrai ça sur Insta, donc suivez-moi sur Insta et vous verrez ça. Et si vous êtes pas sur le parcours du marathon de Paris, je ferai en sorte de vous le faire vivre depuis ce compte Instagram, donc si vous voulez voir les dessous de tout ça, ce sera avec plaisir. Donc voilà, 2 semaines et j'ai hâte d'en finir quand même avec ce marathon, même si je kiffe courir, c'est pas le sujet, mais là j'en ai un peu marre d'avoir cette épreuve en tête. Et surtout, j'aimerais bien reprendre un peu plus le vélo et la natation, rééquilibrer un peu les pratiques, et là je me suis quand même beaucoup concentré sur la course à pied, et ça a été une bonne, le marathon ça a été une bonne excuse aussi pour pas faire les deux autres, on va pas se mentir. Donc le fait de plus avoir cette excuse, ça va me forcer à reprendre la natation et le vélo, surtout qu'il commence à faire beau, donc le vélo ça va vraiment être un plaisir. Et j'aimerais bien m'inscrire à un triathlon pour cet été, je sais pas encore si je prends un M ou un L. Un L, ça me paraît quand même très très challengeant là, vu ma condition physique actuelle, qui est plutôt bonne, hein, mais un L, c'est quand même... Un L, c'est à peu près... Je vais vous dire une connerie, mais c'est genre 1,5... Mais attends, c'est un demi-Ironman, donc c'est genre 1,8 km à la nage, ou 1,9. C'est 90 km à vélo et un semi-marathon. Donc c'est quand même engageant. Un M, c'est genre 1,2 km à la nage dans ces eaux-là. 40 km à vélo et 10 km à pied, donc c'est déjà un peu plus accessible. L'année dernière, j'avais fait un S qui était 600 mètres à la nage. Merde, je vous dis une connerie. 20 km à vélo, ouais, ça ferait du sens. 20 km à vélo et 5 km à pied. Ça, c'était vraiment chill. Enfin, vraiment chill. Genre, vraiment, c'était mon premier triathlon, donc je voulais pas viser une distance qui était trop importante. Ça me paraissait être un bon début. Et franchement, ça se fait grave bien. Enfin, j'étais vraiment on fire. C'était nickel. Le M me paraît très accessible pour moi cette année. Le L, ça me paraît un peu tard pour le programmer pour cet été. Peut-être plus l'été prochain si j'en ai l'occasion. Donc voilà. Bon, je sais pas encore, mais j'aimerais bien ça. Et dans le calendrier, j'aimerais bien me programmer aussi un semi-marathon cette fois-ci, plutôt en fin de saison, donc vers novembre. Et là, par contre, j'aimerais bien aller claquer un gros temps, un truc que j'ai jamais fait, mais genre un bail en mode... En fait, semi-marathon, je trouve que c'est cool parce que c'est pas l'endurance du marathon, donc c'est un truc où tu peux vraiment aller chercher de la vitesse, te mettre un peu mal, et en fait, c'est pas grave parce que c'est entre guillemets que 20 km. Un marathon, il y a un moment donné où tu peux pas faire ça. Le truc, il fait 3 heures, enfin, non, plus de 3 heures, il fait 40 km, à un moment donné, tu peux pas te mettre mal parce que en fait tu vas vite le payer quoi. Enfin, tu vas le payer dans les kilomètres qui suivent. Donc, tu peux te mettre mal sur les derniers kilomètres, mais du coup, c'est pas là où tu fais la différence. C'est plus sur une allure de fond que tu fais la différence sur un marathon. Les marathons, ça joue vraiment à des dizaines de secondes au kilomètre, quoi. Enfin, comme toutes les courses, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une grosse différence entre faire du 5,35 au kilomètre ou du 5,20 au kilomètre sur un marathon. Enfin, il y a un écart de genre 20 minutes, quoi. Alors que sur un semi, bah, du coup, la distance est divisée par deux. Donc tu peux vraiment aller chercher de la vitesse et ça réclame un peu moins d'endurance. Donc voilà. Donc j'ai hâte d'aller chercher ça. Je m'engage pas encore sur un temps, mais j'aimerais bien faire en dessous d'une heure 40, voire bien en dessous d'une heure 40. Ça me mettrait bien. Donc voilà les prochains objectifs sportifs. Et oui, j'allais oublier. Je me suis engagé personnellement à faire un défi à la fin du mois d'avril. 2-3 semaines après le marathon, je vous en dis pas plus tout de suite, mais je documenterai aussi ça sur Insta, c'est un gros défi de course à pied, c'est un truc un peu débile, mais bah j'aime ça. Donc ce sera dispo et je vous en reparlerai évidemment. Je me prends une petite gorgée d'eau et on passe à la catégorie leçon de la semaine, au chapitre leçon de la semaine, qui est toujours pas le titre le plus stylé du game, mais j'ai pas trouvé mieux et vous m'avez pas non plus donné mieux par message, donc bah, pour l'instant c'est comme ça. Ok, combien de temps? 21 minutes, on est bien. Leçon de la semaine. Alors, le premier truc c'est sur la vitesse d'exécution dans une entreprise, en particulier dans une startup. En gros, un des éléments qui fait grave la différence quand on entreprend, c'est notre capacité à aller vite, quitte à faire des erreurs, mais en tout cas à exécuter un plan. Parce qu'en fait, quand on crée une boîte, il n'y a aucun risque. Il ne se passe rien, on n'est personne, on n'a pas vraiment de clients, on n'a pas vraiment de produits, on n'a pas d'engagement, on a peu ou pas de financement. Donc en fait, si on rate quelque chose, c'est chiant, mais c'est pas un drame. Plus une entreprise grossit, plus elle a un risque important, plus elle doit considérer les risques auxquels elle fait face au moment de faire une action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des grands groupes. Si vous avez déjà travaillé avec des grands groupes, bah, au moment de prendre une décision, ça prend une éternité. Et il faut passer par des comités de machin, parce que personne veut assumer ce risque, d'une part, d'un point de vue personnel, et aussi parce que l'entreprise, de manière générale, doit se prémunir du risque. Donc, puisqu'il y a une mentalité d'irresponsabilité et une aversion globale au risque, bah forcément, c'est lent. Le truc, c'est que un des avantages des startups, c'est de pouvoir prendre ces risques et de pouvoir aller extrêmement vite. Et je vais pas vous faire la tarte à la crème de la devise de Facebook au début, mais c'était « Move fast, break things », ce qui est plus du tout la devise de Facebook aujourd'hui, où il faut surtout ne rien casser, parce que ça peut engendrer des millions voire des milliards de pertes par minute d'inactivité de certaines features. Et une des manières d'aller très vite au début, c'est d'avoir une règle qui est très simple, c'est de ne pas avoir de balle dans son camp. Quand vous jouez à la balle au prisonnier, l'équipe adverse, elle envoie des balles dans votre camp, elle essaye de vous toucher, mais une fois que vous avez la balle, bah, soit vous la gardez pendant une éternité et bah, le jeu il prend une éternité, soit vous la renvoyez et vous essayez de toucher l'adversaire. Et bah là c'est un peu pareil, il faut faire en sorte d'avoir aucun ballon qui est dans notre côté du terrain. Ça veut dire que dès qu'on reçoit quelque chose d'un partenaire, d'un client potentiel, d'un prospect, d'investisseur, etc., tout de suite, il faut que la balle elle reparte de l'autre côté. Il faut que le ballon reparte de l'autre côté. Par exemple, cette semaine, il y a un prospect qui m'a envoyé un long NDA, un truc qui faisait genre 20 pages pour pouvoir bosser avec eux. C'est un peu surdimensionné, mais je leur dirai pas en face, parce que j'ai envie de bosser avec eux. Mais ok, bah, il m'envoie ça, je prends 30 minutes, je balaye bien le truc, je check avec ChatGPT les clauses qui sont importantes, je fais une proposition d'amendement sur une ou deux clauses qui étaient un peu touchy pour nous, bim, je leur envoie. Ça m'a pris, je pense, 45 minutes, tout compris. Mais le ballon, il est plus dans notre camp, il est dans le leur. Et en fait, moi, j'ai compressé le temps. Ils m'ont envoyé le truc, bam, je l'ai fait, je l'ai envoyé. Pareil, on est en train de bosser avec une agence pour refaire notre branding pour que ce soit vraiment propre au moment où on sort tous les trucs, bah la même chose en fait. Elle m'envoie un truc, j'essaye d'être le plus rapide possible pour leur répondre. Alors parfois je fais face à des contraintes qui sont pas les miennes, et donc du coup ça prend un peu de temps, mais j'essaye d'aller le plus vite possible. Un client me pose une question, boum, je réponds. Et je discutais avec un entrepreneur la semaine dernière, avec Alexandre, qui a créé une boîte qui est ultra stylée, je pense que je peux en parler, ça s'appelle Sherlock, c'est une boîte qui fait de l'assurance pour vélo. Donc Alexandre est le CEO de cette boîte, c'est un entrepreneur que j'apprécie beaucoup et qui est très stylé dans ce qu'il fait. Enfin, il est vraiment en train de faire un truc de ouf et c'est un vrai entrepreneur. Et justement, il me parlait de deals qu'il a pu gagner ou de partenariats qu'il a pu faire. Et en fait, il appliquait exactement cette règle. C'est-à-dire que bah, quand t'as un client et que tu vas sonder une startup versus une grosse boîte, bah, en fait, la startup, si elle te répond du tac au tac en permanence avec des réponses de qualité, évidemment, des trucs qui sont bien faits, de qualité, enfin, si tu fais un truc propre, rapide, bam, ça part. Versus tu poses la question à une grosse boîte qui va peut-être faire un truc de qualité à peu près équivalente mais qui va mettre sa vie pour le faire, et bah forcément tu crées plus de liens avec la startup, t'as plus envie de bosser avec elle. Et je pense que c'est pareil dans beaucoup d'autres boîtes. Si t'as un avocat, tu poses une question à deux avocats pour en sélectionner un des deux pour t'accompagner sur un deal, il y en a un qui te répond du tac au tac avec des trucs de qualité et tout ça, tu vois qu'il a envie de bosser, versus un qui prend sa vie, bon bah tu dis vas-y, je prends celui qui me répond rapidement et on y va. Et pareil pour je vais pas vous faire la liste, mais pareil pour une agence, t'as envie de bosser avec une agence, t'en as une qui te répond deux semaines après et qui a toujours rien fait, et t'en as une qui te répond tout de suite avec des propositions, des questions, etc. Bon bah tu vois t'as plus envie de bosser avec elle. Donc voilà, donc de mon côté la semaine dernière ça s'est illustré avec ce client qui a envoyé un NDA, boum, répondu tout de suite dans la journée, proposition, tous les autres documents étaient en pièce jointe, réponse aux questions de l'acheteur de manière ultra propre. Pareil pour un autre, bah, le client qui a sorti l'appel d'offres, en fait il a sorti l'appel d'offres, instantanément j'ai lu le cahier des charges, j'ai checké ça avec la personne qui est lead tech de notre côté, on avait des questions à lui poser, bam, les questions sont parties dans la journée, le lendemain j'ai écrit la réponse à l'appel d'offres, j'ai eu la réponse à mes questions, j'ai pu programmer un rendez-vous et ça avance. Et en fait là, de notre côté, on a quasiment plus rien à faire si ce n'est voir un de ces équipements sur lesquels on va pouvoir installer notre device et faire la proposition financière, mais qui dépend de ce premier point. Donc, et tout est calé dans l'agenda. Donc en fait, on n'a plus de ballon dans notre camp, si ce n'est des actions qui sont programmées et sur lesquelles on n'a plus besoin de personne pour les faire. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que là-dessus, il faut vraiment être carré et la vitesse d'exécution, c'est vraiment un truc qui compte et qui fait la différence. Et qui fait la différence aussi par rapport à vos concurrents. Parce que si vous avez des concurrents dans le même secteur, mais qui sont moins vite que vous, bah, qui sont moins rapides que vous, pardon, je vais essayer de parler français, bah forcément, vous faites la différence. Donc, n'ayez pas de ballon dans votre camp. Je prends un petit peu d'eau et je passe à la suivante. La semaine dernière, j'ai aussi déjeuné avec Mathieu, qui est un de mes anciens collègues d'Open Classroom. Je vous partage vraiment mon agenda social. Genre, j'ai un petit déjeuner avec Alexandre, j'ai déjeuné avec Mathieu. Bref. Donc ouais, j'ai déjeuné avec Mathieu, qui est un de mes anciens collègues chez Open Classroom, ce que j'apprécie aussi beaucoup, qui a un passé d'entrepreneur, qui a un profil en marketing qui est vraiment ultra carré et qui a une culture aussi impressionnante. Il fait partie des gens qui font du marketing à très haut niveau, mais qui ont aussi fait Sciences Po, ce qui fait que c'est agréable de parler avec eux. Non pas que ce soit agréable de parler avec toutes les personnes qui ont fait Sciences Po, loin de là, mais même très loin de là d'ailleurs, mais parfois ça aide sur des références culturelles en particulier. Et donc avec Mathieu, on a passé un super déjeuner et on a beaucoup parlé d'un sujet que j'ai abordé la semaine dernière qui est... le fait que le coût de ne pas faire certaines choses est souvent plus important que le coût de les faire, mais que c'est en fait quelque chose qui est difficile à justifier. Et lui, il me disait, parfois il a du mal à justifier des campagnes marketing, parce que le marketing, il y a plein d'aspects dans le marketing. L'aspect qu'on connaît le plus dans le côté startup, c'est le performance marketing. Donc ça veut dire je fais des ads sur des plateformes et je peux calculer des ROI qui sont très précis. En gros, j'ai mis 10 euros dans la machine, je reçois 100 euros, machin. Enfin bref, on peut faire des trucs qui sont vraiment propres. J'ai tel taux de clic, tel coût par clic, blablabla. Mais il est parfois difficile de justifier des dépenses qui ne sont pas ROIistes ou pour lesquelles le ROI plutôt est difficile à calculer. Donc ROI, Return on Investment, retour sur investissement en français. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait une pub à la télé ou une pub dans le métro, bah c'est parfois un peu difficile de... Même quand on fait n'importe quelle opération de notoriété d'ailleurs, c'est un peu difficile de calculer un ROI. Et en fait, beaucoup de choses qu'on fait dans la vie sont pas héroïstes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il me disait, tu vois, c'est quoi le ROI de manger ? En fait, si on veut, on peut juste faire des perfusions ou boire des feeds. Mais en fait... on mange pas que pour se nourrir. Donc voilà. Donc il y a pas que du ROI dans la vie et il faut pas voir tout sous le prisme du ROI. Enfin, je veux dire, le ROI de discuter avec des gens, de se faire des potes, il y a pas de ROI, c'est juste la vie. Et donc c'est pareil, le fait d'aller faire un sujet chez TMC, là, me faire interviewer, machin, sur Medjin, bon, bah, il y a pas de ROI. Je veux dire, j'ai pas été payé, ça m'a coûté du temps. J'ai zéro retour, c'est pas le sujet, mais c'est juste, c'est des trucs fun à faire en fait. Et il m'a dit une citation que j'ai beaucoup aimée, une citation de Pierre Berger, et du coup j'ai commandé le livre qu'il m'a recommandé. Donc la citation, c'est: il faut perdre son temps pour le retrouver. C'est Pierre Berger qui a dit ça, quel beau gosse. Et il m'a donné un livre, mais j'ai oublié le nom, mais je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu. Je vais vous dire ça tout de suite, je fais la petite recherche. Ouais, la nuit va bientôt tomber et l'encre, c'est le sang. Donc, il y a ces deux trucs, mais c'est dans le même livre. Ça a l'air assez stylé. Enfin, je vous dirai ça très vite parce que je l'ai commandé, c'est ma prochaine lecture. Et donc, c'est Pierre Berger et c'est aussi des entretiens avec Laure Adler. Ouais. Conversation avec Laure Adler et entretien avec Joël Gaillot. Donc, c'est deux gros entretiens de Pierre Berger avec des auteurs ou des journalistes. Et voilà, donc ça a l'air très cool. Pierre Berger, c'était quand même un sacré beau gosse. Enfin, j'ai hâte de comprendre un peu plus son histoire au travers de ses entretiens. Ça me paraît vraiment cool, donc j'ai vraiment hâte de commencer cette lecture. Mais surtout, il faut savoir perdre son temps pour le retrouver, ou il faut perdre son temps, pardon, pour le retrouver. Bah, je trouve ça assez vrai en fait. Et c'est difficile parfois de l'entendre parce que on a tous envie d'avoir des résultats, on a tous envie de voir ce que c'est une conséquence monétaire souvent de nos actions, monétaire ou physique d'ailleurs. On a envie de voir ça, mais il y a beaucoup d'actions qui sont en dehors de ça et c'est souvent celles qui rapportent le plus. Tu vois, le retour sur investissement de l'histoire, enfin de créer un podcast sur le vin que j'ai, bah en fait il n'y a pas de retour sur investissement. Enfin, je veux dire, j'ai peut-être au cumulé sur 4 ans de podcast sur le vin, j'ai dû gagner 1000 euros avec. Enfin, je veux dire, je fais pas ça du tout pour un retour sur investissement. Je fais ça parce que c'est un énorme kiff. Parce que, en fait, on peut pas mettre de valeur monétaire sur parler avec des propriétaires de grands châteaux dans toute la France, découvrir des régions qu'on n'aurait jamais vues, goûter des vins qu'on n'aurait jamais goûté, faire des dîners de malades, dormir dans des endroits dans lesquels, en fait, c'est impossible de dormir sauf si vous êtes invité. Donc, là, même juste avant d'enregistrer ce podcast, j'étais en train de déguster des grands crus de Bourgogne dans un salon au Meurice. Je dis pas ça pour flex, mais juste, bah, c'était trop cool en fait. Il y a pas de return sur investment. J'ai passé une heure, j'ai dégusté, j'ai recraché évidemment parce qu'on est à 2 semaines du marathon et aussi parce qu'il était 16h, mais il y a pas de retour sur investissement, mais juste pouvoir goûter des clos Vougeot dans un salon, dans un des palaces parisiens, bah, juste ça tue en fait. C'est trop cool. Et il s'est rien passé. Enfin, je veux dire, j'y suis allé, j'étais content d'y aller. J'ai discuté avec 2-3 personnes, j'ai dégusté, je suis parti. Pareil, il n'y a pas eu de retour sur investissement sur le fait d'aller passer une heure là-bas, mais juste c'était trop bien. Donc voilà. Donc, il faut faire des choses qui n'ont parfois pas de retour sur investissement, et c'est parfois difficile à entendre, surtout quand ça coûte de l'argent, quand ça coûte du temps, c'est parfois un peu plus. C'est marrant ça, parce que parfois c'est plus ok de perdre son temps dans des trucs nuls et de pas justifier ça avec une approche héroïste. Et par contre, dès qu'il s'agit d'argent, là ça met tout le monde d'accord. Ça, c'est un bon truc. Bon, bref. Donc, perdez votre temps, c'est pas grave. Parfois, il faut savoir perdre son temps pour le retrouver et faire des choses qui n'ont pas toujours de ROI. On passe au troisième sujet. Et je pense que, pardon, mais je pense que je vous ferai peut-être un épisode spécial ou une vidéo YouTube, je sais pas, peut-être les deux, sur toutes les fois où j'ai perdu mon temps et en fait j'ai pas vraiment perdu mon temps. Peut-être ça peut être un bête d'épisode, ça. Je vais me le noter. On passe au troisième sujet, pardon, je me suis perdu. Les médias techno-optimistes. Je bois un petit peu d'eau et je vous raconte. Alors, je suis abonné à une newsletter que j'aime beaucoup, que je vais vous retrouver, qui s'appelle Not Boring, si je dis pas de bêtises. Exactement, donc qui est écrite par Paki McCormick, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment un truc de ricain, mais franchement, ils sont forts hein, quand même. On peut dire ce qu'on veut. Ils sont parfois un peu en avance. Hein. Je vous confirme que Paki McCormick qui fait une newsletter qui s'appelle Not Boring, qui est hebdo, je crois, que je lis pas du tout toutes les semaines, mais parfois je la lis. Et cette semaine, c'était assez intéressant. C'était sur les médias techno-optimistiques médias, donc je suppose médias techno-optimistes, on dirait en français. Et en gros, la newsletter commençait en disant que, en gros, il s'est passé plein de choses pendant une semaine. Enfin, il parlait de Extropic qui a sorti un white paper sur le futur de la thermodynamique, sur Cognition AI qui sort Devin, donc l'IA qui peut coder, enfin qui est software engineer, Figure qui a partagé une vidéo d'un robot humanoïde. SpaceX qui a envoyé le plus gros truc jamais mis en orbite de l'histoire. Voilà, il prenait aussi en exemple un tweet de Sam Altman qui disait « This is the most interesting year in human history, except for all future years ». Donc en gros, il dit « La technologie accélère ». Et en fait, c'est marrant parce que je pense que quand on regarde à l'échelle de dizaines ou centaines d'années, on ressent très bien qu'il y a une accélération de la technologie sur les 20 dernières années, on l'a tous ressenti. Enfin, je sais pas vous faire l'histoire du téléphone, mais voilà, on l'a tous ressenti que entre les premiers téléphones et l'iPhone, en fait, il s'est passé 100 ans, mais c'était les 100 dernières années. Enfin, donc, je dis 100 ans, je dis peut-être une connerie, hein, mais c'est pas le sujet. Donc, le rythme de la technologie s'accélère. Et je sais pas si vous le ressentez en ce moment. Je pense que c'est un peu difficile de le ressentir dans notre vie quotidienne parce que les applications de ces technologies-là sont pas encore toutes vraiment tangibles. On en perçoit certains effets, on perçoit ce qui va arriver, mais c'est difficile quand même de vraiment le matérialiser. Je veux dire, l'impact de l'IA, oui, ok, je pose des questions à ChatGPT, je le maltraite, je lui fais faire des trucs, mais je veux dire, j'ai pas encore un robot chez moi qui fait des trucs pour moi, donc c'est parfois un peu difficile à rendre tangible, mais force est de constater que toute la technologie accélère et qu'il se passe des trucs de malade dans tous les domaines, en fait. Et même d'ailleurs dans le domaine, dans des domaines de recherche fondamentale, il se passe des trucs de ouf. Donc voilà, et sa newsletter n'était pas là-dessus, mais c'était, enfin, ça c'est le début, c'est le contexte, mais en fait, il disait ce qui est intéressant, c'est que ces sujets-là sont transmis de manière continue par une collection de newsletters, de podcasts, de chaînes YouTube, de comptes sur X, et par des gens éparpillés, voire par les fondateurs eux-mêmes, plus que par des médias établis, centralisés. En gros, il disait qu'il y avait une approche médiatique, décentralisé, internet native de ces sujets-là versus une presse établie quoi. Enfin, je vais pas vous refaire le truc sur la différence des médias et de Twitter. Enfin, c'est pas le sujet. Mais je trouvais ça assez cool. Et surtout, dans cette newsletter, il a repris un exemple une liste plutôt. De médias ou de personnes à suivre, quoi, et c'était assez stylé, et donc je peux vous faire un peu la liste. Moi, je me suis abonné à certaines d'entre elles, où je vous mettrai la liste, où vous irez voir. Je pense que vous irez voir, parce que je vais galérer à vous faire la liste, je suis dans mes mails et tout, franchement, c'est pas ouf. Mais c'était assez cool, et en fait, à ça, il met là-dessus le fait, enfin, il met là-dessus l'idée de Tim Urban qu'il y a une différence entre les ID Lab et les Echo Chamber Discussion. Et en gros, le fait d'être dans une approche décentralisée de tout ça avec des individus qui partagent les éléments, ça permet davantage d'être dans un ID Lab. Donc en gros, d'avoir des échanges profonds d'idées, de concepts, de manières de fonctionner, quoi, ou de manières de voir les choses, plus que dans une echo chamber discussion, qui est en fait un truc où on se renforce les opinions les uns les autres. Et en fait, le fait d'avoir toutes ces histoires qui sont racontées par des individus, par décentralisées de nature, un peu à droite à gauche, ça permet vraiment de créer un écosystème pourvu que vous suiviez les bonnes personnes et que vous écoutiez les bonnes personnes, que vous checkiez les bons contenus, quoi. Et voilà. Et en fait, c'était assez assez cool. Donc, allez checker Paquet McCormick. Déjà, c'est un super super exemple si vous voulez vous abonner à des gens qui sont intéressants. Si vous écoutez ce podcast, vous êtes avec quelqu'un d'intéressant. Je rigole. Enfin, je rigole. En vrai, peut-être que ça y contribue parce que je pense essayer de raconter quelque chose. Je suis pas, je suis loin d'être au niveau des innovations dont je vous ai parlé précédemment, mais voilà, c'est assez cool. Voilà. Et ça me fait penser que je me souviens d'un tweet que j'avais vu passer ou d'une citation que j'avais entendue, mais je sais pas du tout de qui, désolé, mais qui disait on n'est pas en manque d'idées ou d'argent, on est en manque de personnes optimistes. Enfin, c'était en anglais, c'était beaucoup plus stylé, mais voilà, vous avez compris le délire. Donc voilà, donc allez suivre les techno-optimistiques médias, allez checker ce que fait Paquet McCormick et essayez de, je pense que c'est le cas si vous êtes là, de manière générale, si vous avez la curiosité d'écouter ça, mais allez checker des médias qui sont techno-optimistiques. Et voilà, peut-être abonnez-vous à ce genre de compte, mettez-les dans une liste ou un truc que vous allez checker de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé de bombarder votre feed de gens qui font des robots et de l'IA, mais je trouve que c'est plutôt cool de se mettre là-dedans parce que ça va arriver très vite. Quatrième sujet, je vais pas vous parler de celui que j'avais prévu à la base parce que en fait c'est pas ouf, donc ça sert à rien, je le supprime, hop. Et par contre je vais vous parler de ce sujet là alors ça je vais devoir improviser, j'ai pas trop préparé celui-ci, mais il y a eu pas mal de réflexions qui sont issues de ça. En gros, cette semaine j'ai vu un gars qui a une chaîne YouTube où il a 8000 abonnés, et franchement je suis désolé, bon, je dirais pas son nom et j'aime pas trop dire des trucs comme ça, mais je trouve que ce qu'il fait, c'est pas ouf. Mais pas au sens... il fait des vidéos de cuisine qui m'intéressent pas, mais dans le sens où je trouve que la production de ses vidéos... En fait, il a un podcast, et il met la version audio de son podcast juste audio, genre il se passe rien d'autre. Et il a 8000 abonnés. Donc moi, ça me fait un peu chier, parce que... Si je me compare, c'est pas bien de se comparer, mais j'en ai 2400 et je me casse un peu le cul sur certaines vidéos, donc ça fait toujours un peu mal à l'ego d'avoir ce genre de comparaison. Bon, après, tranquille, j'ai dig dans les stats et en vrai c'est un peu du mytho, c'est 8000 abonnés parce que il y a une vidéo qui a pété, mais toutes les vidéos récentes ont quasiment pas de vues et voilà, donc ça s'explique d'une vidéo qui a bien marché. Mais ça s'est pas vraiment transformé ensuite dans les stats de vue. Je dis pas ça pour rager, mais je dis ça pour expliquer et pour... c'est pas du tout mon objectif, mais c'est plus pour expliquer et pour comprendre aussi de mon côté ce qui se passe. Mais j'ai vu un autre gars qui a une chaîne de combat de toupie Beyblade. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des... Me demandez pas comment j'ai vu ça, me demandez pas. Vous savez, c'est les toupies là qu'on avait quand on était en école primaire, parce qu'il y avait un dessin animé de ouf qui s'appelait Beyblade. Et du coup, on tannait nos parents pour nous acheter des toupies qui coûtaient je sais pas combien de combien d'euros, au motif qu'on avait vu ça dans un dessin animé. On faisait des combats à la cour de récréation sur les bouches d'égout, des trucs comme ça là. Ça faisait hyper vitesse, bam, tac, il y a la toupie qui sortait. On pensait qu'il y avait des démons dans les toupies et tout. Enfin bref. Si vous avez jamais vu Beyblade, désolé, vous n'êtes pas dans le délire, mais si vous avez vu, je pense que là, vous avez le sourire aux lèvres et vous voyez très bien de quoi je parle. Et ça vous rappelle des bons souvenirs. Bon, bref, ce mec, il a une chaîne YouTube de toupies Beyblade, il a 100 000 abonnés. Il fait des combats de toupies Un combat de toupie, c'est long. Hein. Parce que tu lances la toupie, tu lances les deux toupies, elles se touchent vite fait, mais ensuite elles se touchent plus ou moins. Un combat de toupie, c'est la première toupie qui a perdu, elle meurt. Enfin, la première toupie qui arrête de tourner, elle a perdu. Donc, le mec, il lance des toupies. Ensuite, il met sa vidéo en accéléré, genre x12 ou x16, parce que sinon ça dure une éternité. Déjà, les vidéos, elles font 10 minutes de toupie. Et putain, il fait des vidéos qui ont 20 000 ou 30 000 vues, quoi. Et tu vois juste une table, quoi, avec les toupies. C'est magnifique. Il doit avoir un AdSense de zinzin. Genre, il doit gagner... je vais dire une bêtise, mais je sais pas, il doit 100 000 abonnés. Après, ça fait longtemps qu'il n'y a pas publié de vidéo, mais genre, il doit faire, je pense... Ouais, je vais pas m'engager, mais peut-être 1 000 euros par mois ou un truc comme ça, de toupie, quoi. Ça fait mal. Ouais. Mais bon, tout ça pour dire que déjà ça c'est la beauté d'Internet. Franchement c'est trop stylé. Moi je suis trop content. Les toupies c'est pas trop mon délire, c'est pas trop ce que j'aime. Mais je suis content de trouver du contenu que j'aime sur Internet et je suis sûr que le contenu que j'aime n'est pas le contenu que d'autres personnes aiment. Donc je suis trop content d'avoir du contenu que je kiffe trop et qu'il y ait des gens qui le fassent. Donc c'est trop bien. Ça veut aussi dire que si vous avez un truc qui vous passionne dans la vie, bah il y a sûrement moyen de faire quelque chose sur Internet avec. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Donc on vit quand même une époque qui est trop cool où si vous avez la moindre passion, vous pouvez la transformer en un truc de ouf sur Internet et au-delà de la transformer en un truc de ouf, parce que je pense pas que c'était son objectif en faisant des vidéos de toupie. C'est plus ça a pris et c'est stylé, mais je pense que son objectif, c'était plus de partager une passion avec des gens et bah ça marche, donc c'est trop cool. Vous pouvez avoir des vidéos qui pètent et vous retrouver à 100 000 abonnés dans votre secteur et il y a une situation qui est plus la même, quoi. Genre, c'est life changing. Pas spécialement d'un point de vue monétaire parce que, enfin, ce gars-là, je le connais pas, mais je sais pas s'il est à 1 000 euros près par mois. Évidemment, ça fait plaisir de gagner 1 000 euros par mois, on s'entend. Et je dis pas que c'est son cas, mais évidemment, ça fait plaisir. Je crache pas sur 1 000 euros de plus par mois, c'est clairement pas le sujet. Mais je pense aussi qu'avoir une chaîne YouTube à 100 000 abonnés qui traite d'un sujet particulier t'ouvre des opportunités que t'aurais pas eu. Enfin, ce mec-là, il pourrait faire des combats de toupie Beyblade avec des stars, quoi. Genre, attends, peut-être je lui donne une idée. Peut-être il écoute ce podcast et je vais voir une miniature sur YouTube, Pierre Ninet, enfin, un tournoi de toupie Beyblade bientôt. Bref. Et en vrai, moi, c'est un peu le cas, entre guillemets, à ma petite échelle. J'aime pas du tout cette expression, mais dans le vin. Où le fait d'avoir un podcast sur le sujet, d'avoir vraiment bien taffé le truc, me permet de rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer. Et je vous en parlerai la semaine prochaine, parce que j'enregistre avec une personne de fou furieux, je vous en parlerai la semaine prochaine. Clairement, cette personne-là, j'aurais jamais rencontré si j'avais pas ce podcast. Et j'ai déjà rencontré plein de personnes que j'aurais jamais rencontrées si j'avais pas ce podcast. D'ailleurs, une grosse partie de mes invités. Donc voilà, donc si vous avez un kiff et que vous avez envie d'aller plus loin et de faire des trucs cool, ben YouTube, les podcasts, le contenu et tout, je pense que c'est vraiment un edge qui vous permet de rencontrer des gens trop stylés, d'améliorer la surface d'opportunité. Ça c'est la première leçon de ce truc. Deuxième leçon, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Je veux dire, si ce mec il a 100 000 abonnés pour faire des vidéos de Toupie Beyblade, moi je vais peut-être réussir à dépasser les 2500 abonnés, un de ces quatre. Troisième sujet aussi, c'est que. Et ça, c'est un truc... En fait, je sais pas trop comment me positionner là-dessus. J'ai lu une newsletter ce matin d'Ali Abdal qui m'a pas mal fait réfléchir sur le sujet, donc je suis pas encore très mature pour vous en parler, mais en gros, c'est est-ce qu'il faut faire des vidéos YouTube parce que ça nous plaît, ou est-ce qu'il faut en faire parce que c'est un business? Et en fait, en fonction, on n'optimise pas les mêmes choses. Si on fait des vidéos YouTube qui nous font kiffer, bon bah, juste on fait notre life, peut-être ça pètera pas, mais c'est comme ça. Mais on kiffe. Si on veut le faire en mode c'est un business, bon bah auquel cas il faut faire des vidéos YouTube avec l'objectif que ça fonctionne, donc il faut trouver les bons sujets, bien tourner, mais aussi optimiser les taux de clics, optimiser le watch time, optimiser les miniatures, machin. Et d'ailleurs je pense, en fait, je sais pas encore, je suis pas encore très mature sur ce dernier point. En fait moi j'oscille entre les deux, parfois je me dis... En vrai, j'ai envie de faire les trucs que je kiffe, je m'en fous de combien j'ai de vues et tout. Mais après, quand j'ai pas de vues, je suis deg. On va pas se mentir. Quand la vidéo, elle fait 5 vues en 24 heures, je suis en mode, putain, c'est relou. Et en même temps, je me dis, vas-y, j'ai fait un truc qui me faisait kiffer, c'est trop cool. Donc voilà, donc j'oscille, et en même temps, parfois, je me dis, tu sais quoi, je vais faire juste les vidéos que je kiffe, et il y a un moment donné où ça finira par prendre, et voilà. Et en fait, j'aurais juste fait les trucs que je kiffe, et c'est comme ça. Et en même temps, en même temps, si je fais des trucs, j'ai envie que ça marche. Donc, vous voyez, je suis un peu pris entre les deux. Bref. Donc, voilà les points que je voulais vous partager sur ce mec qui a 100 000 abonnés et qui fait des trucs Beyblade. Je trouvais ça trop cool. 1, 2, 3, 4, 5e point. Ah ouais, le 5e point, il est stylé. Je prends une petite gorgée d'eau et je vous raconte. Ok, 5e point. Casey Neistat a sorti une vidéo YouTube. Comme d'habitude, c'est une masterclass. Si vous ne connaissez pas Casey Neistat, allez voir ses vidéos sur YouTube. Donc Casey, c'est C-A-S-E-Y. Neistat, s'écrit N-E-I-S-T-A-T. C'est un mec qui est à New York, qui fait des films depuis 25 ans. Je sais pas depuis combien de temps il fait des vidéos YouTube, je dirais 5 ans, 10 ans, je sais pas. Bref, c'est un peu le mec qui a vraiment inventé le vlog sur YouTube, kind of. Et surtout, toutes ses vidéos sont trop trop stylées. En fait, pour moi, il a atteint le niveau de masterclass où quand tu vois sa vidéo, t'as l'impression que c'est facile de faire ce qu'il fait. Et en fait, c'est grave dur. Et pour moi, ça, c'est le Graal. C'est un peu comme quand tu vois un joueur de foot faire des jongles. T'es en mode, vas-y, c'est trop simple, moi aussi je sais le faire. Et après, tu prends un ballon, et là, tu bégayes. Et c'est le cas dans pas mal d'autres sports. C'est le cas aussi dans la natation, tiens, d'ailleurs. Ça, je peux en témoigner de manière davantage factuelle que le foot, parce que pour le coup, le foot, je joue pas du tout au foot. Mais dans la natation, parfois, tu vois des gens nager, t'es en mode, putain, ça a l'air trop facile, t'sais, tu les vois, ils glissent dans l'eau et tout, c'est trop beau. Et toi, t'arrives dans l'eau et tu te dis, ouais, c'est trop facile de nager comme ça, et en fait, tu luttes pour ta survie, quoi. Donc voilà. Donc, Casey, pour moi, il a atteint ce stade de génie où ce qu'il fait paraît facile, mais c'est impossible à faire. Enfin, c'est vraiment très dur. Ça demande des années, des heures et des heures de deliberate practice pour en arriver là. Ce que lui a. Il a sorti une dernière vidéo où, en gros, il interview un directeur de production, un réalisateur, je sais pas trop, à New York, qui a fait un film pour Amazon. Mais en fait, ce film devait être joué dans les cinémas, et au final, ce film sera pas joué dans les cinémas, et au final, il sera joué que sur Amazon Prime. Donc le mec est un peu deg, et du coup, ils partent. Enfin, le mec dit, ouais, je vais boycotter la première de ma série, et en fait, on suit un peu son parcours et tout. Je vous spoil pas, vous irez voir la vidéo. En vrai, elle est grave cool, elle dure 12-13 minutes, et franchement, c'est un kiff. Donc voilà, je vous recommande. Et je vous spoil pas le reste de la vidéo, mais à un moment donné, le gars dit un truc qui m'a frappé, et je trouvais ça très cool, et ça fait un peu écho à ce que j'ai pu vivre avec certaines personnes dans une expérience précédente. Le gars dit un truc, il dit « We couldn't afford the people that told us... » je vous la refais. « We couldn't afford the people that told you what you couldn't do, so we just did everything. » Donc on pouvait pas payer des gens pour nous dire ce qu'on pouvait pas faire, donc on a fait ce qu'on voulait. Et ben j'ai trouvé cette citation grave stylée. Franchement, il faut dire ce qui est. Les Américains, ils sont trop forts pour sortir des bangers là comme ça en une phrase. C'est un truc qu'on fait un peu moins avec la langue française. J'espère que je réussis à le faire par éclair de génie dans ce podcast. J'aimerais bien. Il faudrait que je les note. Mais ouais, j'ai trouvé cette phrase vraiment vraiment stylée. Et en fait c'est aussi assez vrai. Parfois vous embauchez des gens qui passent leur life à vous dire ce qui est pas possible de faire, et en fait si vous les écoutez pas ou si vous les avez pas avec vous, vous prenez peut-être plus de risques, vous travaillez peut-être plus, mais vous faites des choses que vous n'auriez pas faites sinon. Et ça c'est maxi cool. Donc voilà. Donc, et ça veut aussi dire que parfois être sous la contrainte de budget, de situation où en fait t'as peu de personnes autour de toi, où t'as peu de trucs aux alentours, de gens qui check, machin, bah en fait, tu exceed expectations, parce que tu te mets des attentes qui sont beaucoup plus élevées, ou tu fais des trucs qui sont beaucoup plus... qui ont beaucoup plus d'impact, en fait. Et au lieu d'être toujours dans la discussion, dans le « ouais, oui, mais ça, est-ce qu'on a pensé ?» Nanana, en fait, tu fais des trucs, t'avances, et à la fin, il se passe quelque chose. Et je vous disais un peu ça, je crois, la semaine dernière, en vous disant « ouais, il faut faire les choses, machin. » Et voilà, je pense que ça en fait partie. Donc ouais, cette phrase, elle était grave stylée, toute la vidéo était trop cool. Je vous invite à aller la voir. Et ce producteur-là, c'est vraiment un badass. Genre, il conduit son propre avion et tout. Enfin, j'ai trouvé ça... Ok, on peut critiquer, mais c'est quand même stylé. Donc voilà. Et dernier point que je voulais vous partager, cette fois-ci, il y a un peu plus de fond. Parce que je vais juste partager une citation en vous disant « Ouais, elle est méga stylée. » J'aurais pu essayer de trouver plus de trucs sur cette ligne. Mais c'est vrai qu'elle était trop stylée. Et donc, dernier point que je voulais vous partager, c'est plus une réflexion qu'une leçon. D'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce dernier point. Parce que c'est un peu un truc sur lequel je suis en train de réfléchir ou qui se manifeste un peu dans ma vie. Donc, je suis pas mal ce que fait Nick Baer, qui est un athlète et un entrepreneur aux US, qui a monté une boîte de compléments alimentaires et de nutrition sportive, et qui a un peu un mode de vie qu'il a appelé hybrid athlete, qui correspond en gros à courir et à soulever des poids. En gros, il est maxi musclé et il court le marathon en 2h40. Et donc il appelle ça hybrid athlete. Et en gros, moi je réfléchissais pas, mais c'est plus c'est des discussions qui arrivent et tout ça. Et je trouve qu'il y a un concept qui est assez stylé. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est the hybrid life. Et en gros, moi ce que je kiffe, c'est apprendre des choses dans une variété de domaines, faire des choses dans une variété de domaines différents, potentiellement dans la même journée, dans la même semaine ou régulièrement. Et en fait, de pas me définir par une seule activité ou par un seul truc. Tu vois, Antoine, c'est pas le mec qui fait un podcast. C'est le gars qui entreprend, qui a telle boîte, qui a une boîte à côté, il a un side business d'affiches sur le vin qui se vendent sur Amazon. À côté, il a un podcast sur le vin parce qu'il kiffe ça. À côté, il a une chaîne YouTube dans laquelle il fait des trucs de temps en temps. Parfois, il fait quand il y a le time, il fait du dessin. En même temps, je vais à la salle et j'essaie de courir. Enfin, voilà. Et ça me ferait trop kiffer un de ces quatre de faire de la musique. Pour le coup, à un moment donné, on est un peu contraint en termes de temps. Un jour, j'espère avoir une famille et m'épanouir là-dedans. Donc, je trouve qu'il y a une beauté à diversifier ses activités et à faire des choses différentes. Alors évidemment, avec un niveau d'intensité différent, je mets quand même plus d'intensité dans le travail que je fais au quotidien de monter ma boîte, faire un max de MRR et déchirer ce sujet-là versus le temps que je mets à faire ce podcast. Ce podcast, ça me prend une heure. Dès que j'appuie sur fin d'enregistrement, je fais fichier, exporter, MP3, publier, merci, fini. Donc forcément, je mets des intensités différentes. Le dessin, je dessine pas 4 heures par jour. Je dessine 30 minutes quand j'ai le time et quand il y a un bouquet de fleurs chez moi, quoi. En gros, quasiment. Donc forcément, j'ai mis une intensité différente. Mais je trouve qu'il y a un plaisir à faire une variété d'activités, à découvrir des choses, à être dans des environnements différents, à être avec des personnes différentes même. Dans une journée, quand tu rencontres des gens ultra différents, secteurs différents et tout, enfin, je sais pas, je trouve ça vraiment trop cool. Et ça fait un peu écho, là je vais faire un peu le mec bullshit, mais ça fait un peu écho je crois que c'était à la période des Lumières, où il y avait cette thèse de l'homme complet. Et d'ailleurs, chez les Grecs aussi, il devait y avoir ça, genre... Les philosophes, c'était pas les mecs qui clopaient et qui buvaient du vin rouge qui tâche en terrasse dans le 19e arrondissement de Paris. C'était des gars qui soulevaient des poids maxi lourds et qui réfléchissaient à pourquoi est-ce que les étoiles elles sont comme ça, quoi. Ça, c'était les Grecs. Et les Lumières, il y avait ce bail d'homme complet où en gros tu pouvais être il y avait peut-être dire des conneries, je suis pas historien, mais pas encore, mais vous voyez, mais il y avait pas de... Genre, Léonard de Vinci, c'est les Lumières? Non, c'est avant les Lumières, Léonard de Vinci, je crois que c'est la Renaissance. Bon, bref, on n'est pas sur Historia ici, mais Léonard de Vinci, c'était pas un ingénieur. Pourtant, il a inventé un avion et il a peint la Joconde. Et il se définissait ni comme peintre, enfin, je sais pas comment il se définissait d'ailleurs. Je sais pas comment il s'identifiait, mais je veux dire, il était ni peintre ni ingénieur, juste il faisait sa life en fait. Il faisait des trucs. Et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes de l'époque. J'ai pas d'exemple comme ça, mais je pense qu'il y a des gens qui étaient bah, à la fois philosophe, à la fois docteur, à la fois un peu physicien. Je veux dire, sur les plantes, par exemple, on a appris plein de trucs de religieux, alors que leur taf, en partie, c'était de s'occuper des plantes, mais en même temps, ils documentaient, ils écrivaient, en même temps, ils priaient, en même temps, ils faisaient de l'éducation. Donc, il y avait une variété de tâches. Et ouais, je sais pas, je trouve que faire un seul truc, bon, c'est peut-être la clé du focus, du succès, de l'impact et tout, mais en même temps, ça me paraît un peu triste parfois. Et j'ai pas envie d'être triste, donc voilà. Et ouais, je sais pas, je trouve ça trop cool aussi de pas se définir par un seul truc. Tu vois, moi, je... Parfois, ma copine me dit, ouais, on m'a demandé ce que faisait ton copain, et j'ai eu un peu de mal à répondre. Ça me fait kiffer, en fait. Le fait de dire, bah, en gros... La plupart de son temps, il est CEO de telle boîte, mais aussi, il a un podcast sur le vin, mais aussi, tu vois, il vend des affiches sur Amazon, mais aussi, il a acheté une boîte de distribution de verre et tout. Et je dis pas que je fais tout bien, loin de là, et parfois, je vous raconterai quand je vous parlerai plus en détail de cette acquisition de boîte ou de mon business d'affiches, bah ouais, parfois, je passe à côté de trucs, ou je fais une connerie, ou j'ai pas pensé à des trucs, et voilà. Et ok, fair enough. Parce que c'est pas mon focus vraiment numéro 1, et je conçois que dans cette pyramide de trucs, bah, il faut qu'il y ait quand même quelques sujets sur lesquels on passe la majorité de notre temps, ou une part importante de notre temps. Mais voilà, mais je trouve que c'est quand même cool de faire d'autres choses, de kiffer, d'aller au sport, de faire des trucs. Tu vois, je suis très loin de me définir comme un athlète, mais pourtant je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine dans des disciplines différentes, et c'est important pour moi. Donc, voilà ce que je voulais vous partager. Je sais pas trop encore comment le matérialiser. Je sais pas trop si c'est... Je sais pas si c'est trop bullshit ou pas, si ça vous parle. Dites-moi, réagissez à ce sujet, envoyez-moi des messages à ce sujet si ça vous intéresse de creuser. Mais je trouve que ce truc de vie complète, c'est un peu ce que je recherche. C'est un peu une vie d'aventure, une vie de faire des choses différentes. Au quotidien et sur le long terme aussi. Et j'espère que dans 10 ans, je ferai pas du tout ce que je fais aujourd'hui. La question de qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans, je viens de me la poser là du coup en disant cette phrase. Et c'est un peu brutal. On verra. On s'en reparle au chapitre dans 10 ans. On sera au chapitre 523. Donc on s'en reparle au chapitre 523. J'espère que vous serez encore là. En tout cas, si vous êtes encore là après cette heure, merci pour votre écoute. C'était un plaisir de vous partager ce troisième chapitre. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Peut-être ne pas avoir de ballon dans son camp. Ça me paraît pas mal. C'est une leçon de la semaine et ça peut être cool. Je vais l'appeler comme ça. Ne pas avoir de ballon dans son camp. Je vais l'écrire parce que sinon, je vais oublier. Hop. Je vais même l'écrire sur note. Ne pas. Ah là, vous avez vraiment les coulisses. Hein. Donc ouais, merci d'être là. Envoyez-moi un message pour me dire ce que vous avez pensé de ce dernier point ou du reste du podcast. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Rejoignez-moi sur LinkedIn, sur Insta, sur Antoine Desferré, sur les autres réseaux. Je publie pas tant que ça, donc pour l'instant, ça sert à rien. Si, sur YouTube. Suivez sur YouTube, même si je publie moins régulièrement que sur les autres réseaux, mais c'est cool de vous avoir. Je vous souhaite vraiment le meilleur. J'espère que vous allez avoir une semaine qui déchire sur tous les plans. Et je vous le dis vraiment très sincèrement, surtout si vous écoutez ce podcast après 1h03, je vous le dis encore plus sincèrement. Encore merci d'être là et j'espère vraiment que vous avez une semaine de fou furieux. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve au chapitre 4 de cette aventure. On est tous ensemble pour vivre tout ça. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Salut.